Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes, question de parents.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission que nous allons consacrer aux conseils essentiels pour prendre soin du bébé dans les semaines ou les mois qui suivent sa naissance. Un bébé qui chamboule le quotidien avec de nouvelles émotions alors que se noue et se consolide l'attachement. Découverte, apprentissage dans de nombreux domaines, notamment l'hygiène, l'alimentation, le sommeil ou le transit. Découverte quand il s'agit d'un premier bébé, mais aussi lorsque la famille s'agrandit davantage parce que de nouvelles questions peuvent se poser et que l'on n'a pas toujours une sage-femme, une pédiatre ou un aide-soignant à qui s'adresser. Il faut parfois faire la part des choses avec les recommandations familiales parce que si certaines recettes relèvent du bon sens, il faut bien le reconnaître, d'autres sont carrément à éviter. Aliments, vitamines, couchage, soins du cordon, les soins du bébé, c'est notre sujet du jour pour cette question de femme, question de parents. Des questions que vous pouvez bien sûr nous poser sur notre numéro WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 et au Sénégal pour vous répondre, pour échanger avec nous un spécialiste de la santé des bébés et des enfants, le professeur Papa Mokhtar Faye. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de néonatologie et réanimation pédiatrique polyvalente à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar. Dakar où vous êtes également professeur titulaire de pédiatrie à l'université Cheikh Diop. Et vous vous trouvez, professeur Papa Mokhtar Faye, dans les studios de RFI Dakar, en full déhaiement d'un camp, dont on remercie toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un sentiment que vous confient de nombreux jeunes parents, jeunes mamans, professeur Papa Mokhtar Faye, cette crainte d'être un petit peu démunie, sans réponse, en rentrant de la maternité ou de l'hôpital avec le bébé dans les bras ou dans un couffin, rentrer chez soi avec un nourrisson, avec beaucoup de questions sur la manière de s'en occuper?
Souvent, les jeunes couples surtout ont beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et souvent reviennent très très vite en consultation puisqu'ils ne savent pas distinguer ce qui est normal de ce qui est anormal, comment on doit conduire l'alimentation, comment on doit faire la toilette. Ils ont très souvent un certain nombre de questions qu'il faut savoir les rassurer et leur expliquer au cours d'une consultation.
Précisément, ces soins essentiels, on ne va peut-être pas pouvoir tous les passer en revue. On ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, si vous le voulez bien, professeur Faye. Malgré tout, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est quoi ces questions?
Alors, les questions qui viennent le plus souvent sont autour de l'alimentation, du mode d'alimentation de bébé. Soit c'est l'allaitement maternel, ce que nous préconisons, bien sûr, ou si c'est du lait artificiel, quelles sont les modalités de cet allaitement artificiel. Les questions tournent également souvent autour de la façon dont il faut soigner l'ombilique, puisque les soins du cordon sont essentiels. Comment prendre en charge les narines, le nez qui est bouché, les yeux, comment faire la toilette. Donc ce sont ces questions qui reviennent le plus souvent chez les parents.
Alors, c'est vrai qu'il y a des questions très, très pratiques. On a déjà une première question de Christelle sur WhatsApp du Sénégal. Elle demande quelles sont les recommandations en matière de nettoyage des oreilles.
Les oreilles, en principe, s'auto-nettoient. Et en particulier pour le bébé, le jeune nourrisson, il est absolument déconseillé de vouloir nettoyer l'intérieur des oreilles puisque à l'intérieur de l'oreille, il y a une sécrétion naturelle qui se fait. Et cette sécrétion naturelle va nettoyer l'oreille spontanément sans qu'on ait besoin de mettre quoi que ce soit à l'intérieur. Donc il est absolument déconseillé de prendre un coton-tige ou quelque autre objet pour nettoyer l'intérieur de l'oreille. Le pavillon de l'oreille peut être nettoyé puisqu'il est accessible et sans danger.
Ah, donc, utiliser simplement tout ce qui est possible pour l'extérieur de cette oreille, du pavillon. Christelle, toujours, cette fois, question sur le brossage des dents, professeur Faye. À partir de quel âge et à quelle fréquence peut-on commencer à brosser les dents d'un bébé?
Alors, on brosse les dents à partir du moment où il y a des dents.
Ça, c'est logique, ça coule de source.
Il n'y a pas d'âge pour commencer. Même si les premières dents, qui sont les incisives centrales ou latérales, apparaissent très tôt et que l'enfant, dès qu'il y a cette éruption dentaire, il est préconisé au moins de les brosser 2 fois par jour pour maintenir l'hygiène buccale et l'hygiène dentaire.
Quand on dit brosser, au début, c'est simplement avec de l'eau propre, de l'eau en bouteille, par exemple ?
Oui, avec de l'eau, avec un petit coton, on peut nettoyer régulièrement la dent, les dents. On peut également utiliser des petites brosses qui sont adaptées à l'âge de l'enfant.
Alors, s'il y a quelque chose à bien surveiller les premières semaines chez l'enfant, professeur Papa Mokhtar Faye, c'est bien la température du bébé. Et à ce sujet, on a une question WhatsApp d'une future maman en RDC à Butembo. C'est Anne. Elle voudrait savoir quelle est la conduite à tenir en cas de fièvre. En tout cas, quels sont les signaux qui doivent absolument alerter ?
Alors, la fièvre est un signe qui permet à la famille, à l'individu de s'alerter. Et donc, durant les premiers mois, on va dire jusqu'à 3 mois au moins, toute fièvre apparaissant chez un jeune nourrisson doit être un motif de consultation, notamment aux urgences, puisque derrière cette fièvre, il peut s'agir tout simplement d'une simple rhinopharyngite qui n'aura pas trop de conséquences, mais de temps en temps, il peut s'agir d'infections plus graves telles qu'une méningite, telles qu'une infection urinaire qu'on appelle pyélonéphrite. Et donc, il est même déconseillé de vouloir traiter simplement cette fièvre avec du paracétamol à domicile chez les tout jeunes. Il faut vraiment aller consulter pour que l'on puisse faire un examen clinique assez sérieux, assez détaillé et le plus souvent, dans certains cas, faire des examens complémentaires pour déceler une éventuelle infection sévère qu'on appelle plus communément une septicémie dans le langage médical, un sepsis.
Un sepsis. On peut aussi avoir dans certains contextes, dans certaines régions, notamment en Afrique subsaharienne, bien évidemment, le dépistage du paludisme, docteur.
Le paludisme fait partie des sepsis, justement, puisque le sepsis se définit juste toute infection sévère, qu'elle soit d'origine virale, bactérienne ou parasitaire, comme le paludisme.
Surveiller le poids aussi, c'est important, mais sans non plus être obsédé.
Le poids est quand même très, très important durant les premières semaines de vie. Il ne faut pas être obsédé, mais la règle, c'est que le jeune nourrisson doit prendre quand même du poids régulièrement. Une stagnation pondérale est quand même un signe d'alerte que ça ne va pas, soit c'est l'alimentation qui ne se passe pas très bien, l'enfant est peut-être en train de se déshydrater à ce moment-là, de se dénutrir. Je dirais que le poids, quand même, est à surveiller, pas forcément des pesées quotidiennes, mais si la famille sent que l'enfant ne prend pas de poids, il faut consulter, faire une pesée. Et dans le cas où l'enfant perd du poids ou dans le cas où son poids stagne, c'est absolument urgent de réagir, de corriger parce que ça peut mener également à des situations qui peuvent être dramatiques.
Conseil simple mais essentiel. Par exemple, en ce qui concerne le couchage, professeur Papa Mokhtar Faye, vous recommandez quoi ? Et puis il y a aussi les cas où le nourrisson ne dort pas dans son propre lit, dans le lit parental par exemple, après une tétée. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers ?
Alors, la recommandation par rapport au couchage, c'est vraiment le décubitus dorsal, c'est-à-dire l'enfant doit être couché sur le dos. On doit éviter qu'il y ait dans son environnement tout objet tel que des oreillers, des draps qui peuvent être à l'origine d'une asphyxie. Ça, ce sont vraiment les recommandations parce que c'est cette position qui est la moins associée au risque de mort subite du nourrisson parce que ce qu'on craint ici, c'est la mort subite du nourrisson. C'est vrai que dans le contexte africain où l'allaitement maternel se fait régulièrement, très souvent le soir, où on fait ce qu'on appelle du co-sleeping, c'est-à-dire papa, maman, le bébé sur le même lit, ces recommandations sont souvent pas respectées et effectivement, ça pose des problèmes de sécurité par rapport à l'enfant. Mais ce que nous recommandons et que nous continuons à recommander, c'est que l'enfant puisse dormir, se coucher sur son lit en décubitus dorsal, en prenant toutes les mesures de sécurité que j'ai citées tantôt.
Tout de suite, on va écouter nos premiers témoignages. C'est le moment de notre palabre féminin enregistré à Libreville au Gabon et elles sont quatre mamans autour du micro de Charlie Dupiot. Lynn, 29 ans, Aïssata, 33, Nina, 39 ans et Nadia, 42 ans. C'est Aïssata qui entame la discussion.
Côté soins, pour nous c'était un peu plus traditionnel. Il y a quelque chose qui est là, c'est ta première fois, tout le monde veut donner son avis. Il faut faire ça, il faut faire ça. Non, il ne faut pas faire. Il faut faire comme ça. Non. Déjà, à l'hôpital, on te donne les produits pour mettre sur le cordon. Et à la maison, on te dit non. Les mamans te disent non, par expérience. Nous, on sait, par exemple, il faut mettre tel produit pour que ça tombe plus rapidement. Comment on appelle ça? Le beurre de karité. On nettoie d'abord le matin et on applique beaucoup de beurre de karité. Et là, quand j'ai commencé, je crois que c'était le deuxième jour directement, c'est tombé. Oui.
Moi, j'ai mis tous mes bébés, c'était 2 jours.
J'ai mis un peu plus de temps, par contre. Mmh. Et pas du beurre de karité, mais de l'huile de palme.
Oui.
Du beurre de... Chez nous, on appelle ça le maningou.
C'est de l'huile de noix de palme, en fait. Il y a 2 versions. Il y a la version blanche et la version noire. La noire, elle est beaucoup plus corsée, mais elle est super efficace.
Oui.
Sur peau de bébé, c'est de la magie, en fait. Il n'y a pas de boutons, il n'y a rien, en fait. Le bébé a une peau impeccable.
Et ça, c'est pour le cordon ou c'est pour la peau?
Non, c'est pour la peau en général, en fait.
L'astuce que j'avais qui faisait que ça tombe au bout de 2 jours, c'était la salive maternelle. Donc, la petite soeur de ma maman, coucou à elle, elle me disait, tu prends ta salive. En fait, il y a des secrets de mère qu'on se partage en mère. Tu prends ta salive, tu mets juste un peu là.
Sur le cordon?
Sur la pince. Là, qu'il y a une pince, tu mets ça bien. Et c'est ce que j'ai fait. Deuxième jour, ouf! J'étais tombée.
Moi, vraiment, pour les nombrils, je pense que je n'ai pas trop forcé, en fait.
Hein. Ça,
c'est j'ai pas vraiment... Non, je n'ai pas galéré. Je pense qu'au bout d'une semaine maxi, c'était tombé.
Qui vous a transmis ces soins-là?
Pour moi, c'était le fait de voir quand tu es dans la grande famille et qu'il y a... Il y aura toujours des enfants et tout. Donc, tu vois chaque jour. Et tu pratiques aussi au fur et à mesure.
Sur les enfants qui ne sont pas forcément les tiens.
Pas forcément les tiens. Moi, j'étais seule. La maman n'est pas là, le papa n'est pas là, il n'y a personne. Donc, je faisais tout par WhatsApp. Appel vidéo chaque matin avec la maman. Elle se dit, voilà, elle est réveillée. Oui, montre-moi son visage. Est-ce que tout va bien? Elle te dit, comment on l'a lavé? Là, tu es là, avec le téléphone. Elle regarde. Non, ne lave pas comme ça. Fais comme tu te rappelles quand je faisais ça. Et entre-temps, elle te dit, bon, on va regarder si le médicament... Parce que des fois aussi, on donne des médicaments. Par exemple, chez nous, pour les coliques, on prend même 2 ou 3 feuilles de citron. Et on fait bouillir et on lui donne peut-être un cuillerée pour évacuer les gaz et tout, éviter les coliques et tout. Et on fait tout en même temps, par téléphone. Parce que tu es seule, il n'y a personne à la maison.
Oui, quand le bébé vient de naître, nous, c'est généralement la maman qui le fait, la grand-mère, on va dire, le massage traditionnel pour détendre les muscles du bébé. Et ça, c'est une expérience horrible pour la maman.
J'ai jamais vécu ça.
C'est pareil. On fait ça généralement de retour à la maison. Et on appelle ça le lavage. En fait, ils lavent l'enfant 7 fois. On lave 7 fois. Et c'est après la 7e fois maintenant. On commence maintenant à le masser avec du beurre de karité et tout. On l'attrape, on le secoue et tout. Donc, mais ça fait du bien.
Ça va dans tous les sens. Et toi, maman, tu te dis, il est tellement fragile. Et voilà.
C'est ça, en fait, on va le casser, ça y est.
On étire tous les membres du corps, en fait. Les bras, on passe par derrière.
Vous mettez les mains du bébé derrière.
On tire au maximum, en fait. En gros, c'est des étirements, mais toniques. Franchement, je ne saurais expliquer.
L'avantage avec le massage... quand ils sont petits. Donc là, en ce moment, lors des étirements, tu as la possibilité, en fait, de faire des mouvements avec les jambes. Là aussi, ça soigne les coliques. Tu masses le ventre même un tout petit peu. Et là, tu fais des mouvements avec les jambes et tout. Ça l'aide.
Et jusqu'à présent, j'ai gardé ça. C'est-à-dire que comme là, maintenant, il a 18 mois, il joue, il peut se faire mal. Parfois, il est un peu malade, un peu fatigué. Mais ce sont des choses que je fais régulièrement. Des massages à l'africaine, bien toniques. pour ses articulations, pour ses muscles. Voilà, ça fait du bien, ça l'aide à bien grandir.
Mais quand il dépasse les 12 mois et tout, là, c'est plus difficile parce qu'ils ne vont pas se coucher tranquillement pour que tu les masses et tout.
Ils ne sont plus dociles.
Déjà, pour changer la couche, c'est toute une histoire. Donc, imagine un massage.
La personnalité s'affine et c'est plus des bébés.
Alors, votre réaction, professeur Papa Mokhtar Faye, on a entendu hein, beaucoup de conseils qui viennent de l'entourage, pas mal de traditions, des produits aussi. Par exemple, sur les soins du cordon avec un corps gras, comme on l'a entendu.
Alors oui, nous connaissons ces pratiques,
ouais.
Puisque nous avons réalisé une étude il y a quelques années qui montrait que plus de la moitié de la population, une fois sortie de la maternité, appliquait systématiquement du beurre de karité sur le cordon. Mmh. Alors ce ne sont pas des pratiques que nous recommandons puisque le cordon est la porte d'entrée peut être une porte d'entrée de l'infection et souvent les produits qui sont utilisés ne sont pas contrôlés sur le plan de la propreté, sur le plan de l'hygiène et ça peut conduire à des infections. En tout cas, ce qui est recommandé sur les soins du cordon, c'est ce qu'on appelle les soins du cordon sec, puisque même si on ne met rien, en fait, il n'y a pas trop de risques liés à ce cordon. Il suffit de le laver avec de l'eau propre et il n'y a pas vraiment de risque. La chute va intervenir au bout d'une semaine et au maximum, il est préconisé de mettre un produit qu'on appelle de la chlorhexidine, qui est un antiseptique qu'on peut mettre pendant quelques jours. Mais ces produits ne sont pas recommandés.
On a entendu aussi la salive. Là, on peut carrément dire qu'il faut éviter, non ?
Ah oui, il faut absolument éviter de mettre la salive parce que sur le plan de l'hygiène, ce n'est pas une bonne pratique.
Massage traditionnel, étirer le bébé dans tous les sens, vous en pensez quoi ?
Alors, la question revient souvent lorsque les patients reviennent en consultation sur l'intérêt du massage, puisque dans la tradition, c'est fait de façon systématique. C'est-à-dire que même si les parents ne veulent pas, les grands-parents, les tantes et autres vont imposer ce massage. Et nous ne sommes pas absolument contre ce massage. Il y a même des effets bénéfiques qui ont été décrits hein, de ce massage du bébé sur son bien-être, sur sa confiance. Et si c'est réalisé par la maman elle-même, c'est quelque chose qui raffermit le lien mère-enfant. Et il y a même des études qui ont montré que chez le prématuré, le fait de réaliser ces massages avec des huiles augmente la prise de poids, donc améliore la croissance. Simplement, lorsque cette pratique est mal maîtrisée, mal encadrée, on a eu constaté des accidents qui vont jusqu'à la fracture d'un membre. Et donc, puisque c'est très, très athlétique, c'est très, très, c'est tonique, corsé. Quand on voit ces bonnes dames faire les massages, de temps en temps, le nouveau-né, on le tient par les membres et on le secoue, la tête vers le bas, qui peut créer des hémorragies intracrâniennes, des traumatismes vraiment très, très sévères.
Donc, ce qu'on appelle le bébé secoué, hein.
Oui, bébé secoué, Silverman syndrome, et tout ça, c'est des accidents qui arrivent que nous voyons venir à l'hôpital.
Donc ça veut dire massage, oui, mais avec modération.
Avec modération.
On prend une première auditrice en ligne, on part pour la RDC.
RFI à Kinshasa. 105 FM.
Avec nous, c'est Carole. Carole, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors,
bonjour RFI.
Bonjour Carole, vous êtes la maman de 4 enfants, vous en attendez un 5e. Comment est-ce que ça se passe chez vous?
Ah oui, chez moi ça se passe bien, mais j'avais un peu des questions sur les soins des bébés.
Oui, c'est justement l'objet de cette émission, ça tombe bien. Votre première question, je crois, c'est ce que vous avez vu avec Louise en préparant l'émission. Cette première question, elle concerne l'allaitement, parce que bien sûr, vous avez déjà réussi ou essayé d'allaiter vos précédents enfants. Comment ça s'est passé, Carole?
Ah oui, pour les 3 enfants, le lait maternel, ça sortait bien correctement. Et ils ont arrêté de téter à 1 année 6 mois. Mais pour le deuxième enfant, à 1 mois d'accouchement, le lait, ça s'est arrêté de soi-même et ça ne sortait plus.
Cette fois-ci, est-ce que vous étiez particulièrement fatiguée ou est-ce qu'il y avait eu un problème, je ne sais pas, dans la vie, dans la famille, dans l'entourage?
Non, je ne pense pas. Je n'étais pas malade, je n'avais pas de problème. Seulement, du coup, comme ça, ça commençait d'abord à diminuer, ça ne sortait plus beaucoup. Là, c'était à 3 semaines. Et vers un mois, une semaine, ça s'est arrêté complètement, ça ne montait plus. Alors, ma question était de savoir, qu'est-ce qui fait que le lait maternel, après un moment, ne puisse plus couler.
Est-ce que vous buviez beaucoup d'eau? Est-ce que vous aviez essayé de prendre des remèdes?
Oui, je bois beaucoup d'eau. Et quand c'est arrivé, j'étais allée voir un médecin. Il m'avait prescrit un médicament que j'ai déjà oublié les noms, mais ça n'avait pas tenu toujours.
Professeur, un problème de lactation après un mois, comme nous l'explique Carole pour son deuxième bébé, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Bonjour Carole déjà. Je pense qu'il faut voir un peu ce qui s'est passé autour de la naissance de cet enfant, puisque la mise en route de l'allaitement commence très très tôt. Et il est essentiel que, par exemple, en salle de naissance, qu'on puisse faire ce qu'on appelle la mise au sein précoce. C'est vraiment le début, c'est le démarrage, comme on dit, le démarrage en trompe, parce que le fait que le bébé, très tôt, prenne le sein tête dans la première heure qui suit la naissance, ça favorise vraiment un bon départ pour l'allaitement. Et par la suite, il faut que ça s'entretienne, puisque l'allaitement, on a l'habitude de dire, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus l'enfant tire le mamelon, plus l'enfant tète le sein, les deux seins, plus l'usine en produit, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, il peut arriver que, comme vous l'avez un peu évoqué, que des situations de stress, en tout cas d'inconfort, de maladie, fassent que la production, même s'il y a de la production, que l'éjection puisse être contrecarrée, puisque pour que le lait puisse être produit, il faut de la prolactine. Mais pour que cela puisse être éjecté correctement, il faut de l'ocytocine. Ces deux hormones sont sécrétées par l'hypophyse et il est absolument essentiel que la femme soit dans une sorte de bien-être, de confiance en soi, qu'elle ne soit pas stressée pour que l'allaitement se passe bien. Donc il y a la mise en route, mais il y a également l'état de la mère qui est important. Bien sûr, l'alimentation de la maman est essentielle pour que l'allaitement se passe bien. Mais en général, pour une maman qui est normalement nourrie, qui s'alimente correctement, l'allaitement devrait bien se passer.
Carole, vous aviez une autre question, cette fois sur le couchage des bébés, je vous en prie.
En fait, je voulais savoir quelle est la bonne position qu'on peut faire dormir un bébé. Donc, c'était ça ma question.
C'était ça votre question tout à l'heure, le professeur a répondu. Hein, sur le dos, c'est ça, professeur?
Oui, ce qui est recommandé, c'est de le coucher sur le dos. En tout cas, c'est la position qui est associée à beaucoup plus de sécurité par rapport aux autres positions, qu'elles soient sur le ventre ou sur le côté.
Certaines mamans craignent qu'à force de coucher le bébé sur le dos, il ait l'arrière de la tête toute plate. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, des cas de plagiocéphalie ont été observés, mais même sur le dos, on peut changer les points d'appui au niveau de la tête régulièrement pour qu'il n'y ait pas cette plagiocéphalie. Mais elle est surtout observée chez les nouveau-nés prématurés. Vous savez que le prématuré a l'os du crâne qui est encore très très mou, et si c'est surtout chez le prématuré que ce risque de plagiocéphalie peut survenir lorsqu'on le couche en permanence sur le dos et d'un côté de la tête.
On vous remercie beaucoup Carole pour votre participation. Très très bonne journée à vous en RDC. Et vous êtes la première programmatrice de notre émission. Vous allez nous faire partager une chanson d'une artiste que beaucoup d'entre vous adorent, Céline Dion, avec ce titre Goodbyes. On se retrouve juste après avec d'autres auditrices en ligne, toujours avec le pédiatre qui répond aujourd'hui à toutes vos questions, professeur Fay, sur RFI. Turned a baby into a lady. And mama, all you had to offer was a promise of a lifetime of love. Now I know Priorité santé sur RFI, question de femmes, question de parents, à l'écoute de nos auditrices, toujours dans les studios de RFI Dakar, en Foufouldé, un mandinkan. Professeur Papa Mokhtar Faye, chef du service de néonatologie et réanimation pédiatrique à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar. Et c'est maintenant à Libreville au Gabon que nous retrouvons Rolande. Rolande, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous appelez Rolande au sujet de votre petite fille, elle a 5 ans aujourd'hui, mais vous avez des questions par rapport à ce que vous aviez entendu quand elle est née. Précisément, quel type de questions, Rolande ?
Je viens au sujet du soin de bébé, notamment le bain. Alors ici, en Afrique, généralement, on nettoie les enfants dès la naissance et on leur donne un soin, voilà, matin et soir, ils sont baignés. Alors, certaines personnes disent que ça peut favoriser le sommeil chez bébé, et il y en a d'autres qui disent que ça a des conséquences, ça a des répercussions sur la santé de l'enfant. Alors ma question, c'est de savoir si effectivement il faut apporter des soins au bébé, notamment le bain, matin, midi et soir, jusqu'à ses 2 ans. Est-ce que ça a des risques, je ne sais pas, à l'âge adulte?
Vous dites, j'ai entendu, vous avez entendu où? Vous en parlez entre femmes, entre mamans, vous échangez des idées contradictoires?
Voilà, des idées contradictoires au sujet du bain. Il y en a qui sont pour, comme moi, qui l'ai fait pour mes enfants et j'ai continué de le faire pour les petits-enfants.
Je vous poserai cette question toute simple. Est-ce que ça a eu des conséquences négatives sur la santé de vos enfants une fois qu'ils ont grandi, ces bains?
Ben non, ben nous, au contraire, chez nous ici, on dit que ça règle beaucoup de petits problèmes physiques. L'eau chaude, ça peut voilà, éviter les problèmes de tête tordue, du nez un peu plat.
Voilà. Ah, carrément.
Ça peut régler des problèmes. Il y en a d'autres qui disent que c'est pas intéressant de donner le bain au bébé matin, midi, soir.
Professeur Papa Mokhtar Faye, alors il y a 2 questions dans ce que nous dit Rolande. D'abord, la fréquence du bain, hein, laver son bébé à quelle fréquence? Et puis la deuxième question peut-être, c'est sur les croyances associées au bain. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Bonjour Rolande. La première question qui a été évoquée, c'est est-ce qu'on doit baigner le bébé dès la naissance? Il est recommandé de ne pas le baigner le jour de la naissance et d'attendre au moins le lendemain, puisque le bain peut être associé à un risque de refroidissement extrême, d'hypothermie. Et ça, vraiment, maintenant, on demande à la naissance de juste sécher le bébé, de l'habiller et de ne pas le baigner immédiatement. Ça fait partie de ce qu'on appelle les soins immédiats et la prévention de l'hypothermie. Après, au-delà de ce jour, on peut soit baigner le bébé, soit faire des toilettes durant les premiers jours. Mais à mon avis, il n'est absolument pas nécessaire de faire 3 bains par jour pour le bébé. Hein. Un seul bain suffit. Certains disent même une fois tous les 2 jours. Ça dépend certainement du climat, de la chaleur, etc. Mais il n'y a aucun bénéfice à donner le bain 3 fois par jour. Mmh. Au contraire, si c'est associé à l'utilisation de savon de façon répétée, ça peut détériorer la peau, puisque au niveau de la peau, on a un microbiote qu'il faut préserver. Et les bains fréquents, l'application fréquente de produits antiseptiques peuvent fragiliser cette peau et favoriser, par exemple, l'installation d'infections ou d'eczéma, ou en tout cas de réactions allergiques.
Professeur Faye, j'ai une question. Je suis peut-être un petit peu naïve en la matière. Quand on baigne un bébé en Afrique, est-ce qu'on met de l'eau froide ou est-ce que les personnes utilisent de l'eau chaude?
Ah, il faut mettre de l'eau tiède.
De l'eau tiède, puisque... hein, à bonne température, à la température bébé à 38 degrés.
Ah oui, puisque c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a demandé de ne pas baigner le jour de la naissance, parce qu'en Afrique, même s'il fait chaud, la température de l'eau peut être autour de 18-20 degrés quand même. Donc 18-20 degrés comparé à un bébé dont la température corporelle est autour de 37 degrés.
C'est pour ça que vous posez la question, ça va le refroidir et c'est dangereux.
Ça va le refroidir, donc il faut tiédir l'eau. L'eau doit être justement autour de 35, 36, 37 degrés.
37 degrés et pas trop chaude non plus, c'est toute une question de mesure. On remercie infiniment Rolande pour son appel. Très bonne journée à Libreville. On prend la direction du Niger, c'est dans la région de Dosso que Tatou a enregistré ce message. Sur le répondeur de l'émission, on l'écoute.
Bonjour Priorité Santé, moi c'est Tatou, je suis au Niger. Donc ma question est, comment calmer un bébé quand il fait très chaud? Parce que ici au Niger, dans le mois de mars, avril et mai, il fait excessivement chaud et je suis à 7 mois de grossesse. Donc, quand un bébé a très chaud, quelles sont les dispositions à prendre? Est-ce que c'est vrai qu'il est dangereux de mettre les ventilateurs ou bien les humidificateurs ou climatiseurs pour un bébé? Est-ce que c'est vrai que c'est dangereux pour le bébé? Parce que ici, mon entourage, à chaque fois, pas les médecins, mais l'entourage, la population disent que c'est dangereux pour la santé du bébé. Donc, quand le bébé a des boutons, des irritations sur le corps, quelles sont les dispositions à prendre?
Tatou, avec ces questions sur le climat, réaction du bébé à la chaleur, possible risque aussi lié à la climatisation, au ventilateur, même aux humidificateurs, bref, au système de régulation extérieure de la température. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à notre auditrice du Niger, bientôt maman?
Oui, il faut prendre en compte la température ambiante, bien entendu, s'il fait très très chaud. Et il faut s'adapter à cette chaleur. Donc, dans l'habillement, puisque les femmes ou les familles ont l'habitude de bien habiller le bébé avec des habits très très lourds, mais quand il fait très chaud, il faut alléger cet habillement-là. Puisque de la même façon qu'il est exposé à un risque d'hypothermie, de cette même façon, il peut faire de l'hyperthermie. Il nous est arrivé souvent d'hospitaliser des nouveau-nés qui font de l'hyperthermie parce qu'on les a habillés très chaud alors qu'il fait chaud. Et dans ce cadre-là, il est parfaitement autorisé d'utiliser un climatiseur, en tout cas un système pour refroidir l'environnement, en respectant cette règle que la température de la pièce doit être autour de entre 22 et 25 degrés. Et peut-être ne pas diriger aussi bien le ventilateur que le climatiseur directement sur l'enfant. Mais c'est autorisé parce qu'il faut vraiment s'adapter à la température extérieure et agir selon.
Voilà pour ces réponses à Tatou. On a une question WhatsApp de Aïcha de Niamey sur les couches. Elle explique que quand sa petite fille, qui a 2 ans aujourd'hui, était toute petite, tout bébé, elle lui mettait simplement un pagne, pas de couche. Elle la lavait avec du savon liquide, hein, une marque qu'on lui avait conseillée en maternité. Et à 7 mois, elle a commencé à lui mettre des couches achetées dans le commerce. Et elle a arrêté d'utiliser du savon et elle constate aujourd'hui qu'elle a des irritations et elle se demande si c'est grave. Elle se demande justement comment, avec les couches et avec ce lavage à l'eau, elle peut éviter chez sa petite fille ces irritations.
Oui, peut-être que dans son cas, c'est lié à la nature des couches qui ont été utilisées parce qu'il peut arriver que certaines couches ou certaines marques de couches puisse être à l'origine d'irritation, ce qui est un phénomène immuno-allergique. Et à ce moment-là, effectivement, il faudrait changer le type de couches qui sont utilisées. Mais il faut quand même consulter parce que peut-être parfois c'est pas dû à la couche. Ça peut être lié à une dermatite atopique ou à une dermatite liée à une candidose ou en tout cas une autre infection fongique et parfois même à une infection bactérienne. Et donc, pour faire le diagnostic différentiel de toutes ces situations-là, il est peut-être nécessaire de consulter. Mais en général, même sans produit, même avec de l'eau, on peut maintenir une bonne hygiène au niveau du siège.
Donc le conseil pour Aïcha, c'est de consulter, amener la petite voir un médecin pour qu'il puisse exactement déterminer la cause de cette irritation. On va retourner maintenant en République démocratique du Congo où l'on retrouve Marie. C'est à Kisangani. Marie, bonjour.
Bonjour.
Alors Marie, vous avez un tout petit bébé, un garçon de 3 mois. C'est votre premier bébé, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qui vous inquiète chez votre fils? Dites-nous.
Oui, ce qui m'inquiète, c'est la couleur du sel.
Oui.
Et il fait le sel couleur verte. Je ne comprends pas un peu avec des mycoses. Mais il le fait fréquemment, 3 à 4 fois par jour. Or, avant, c'était une fois deux jours, ou soit une fois par jour.
Comment il est nourri, votre bébé, votre fils, Marie?
Il est nourri avec le lait maternel et le lait artificiel. Parce qu'à la naissance, comme c'était la césarienne, et il a été nourri avec le lait artificiel.
Ouais.
Et 2 semaines après, deux semaines et demie qu'après qu'il a repris avec le lait maternel.
Et aujourd'hui, au moment où on parle, c'est vous qui le nourrissez?
Oui, au moment où je parle, parce que je travaille aussi, les avant-midi, il est nourri par le lait artificiel. Et les après-midi, quand je rentre du boulot, je lui donne le lait maternel.
Est-ce que, par rapport à ces questions que vous posez, vous lui avez déjà donné un traitement, quelque chose, ou pour l'instant, vous êtes resté avec vos questions?
Oui, je lui ai donné, parce que je me lamentais beaucoup par rapport à l'africasse et la couleur, parce que c'était associé avec des mykis un peu. Et je lui ai donné l'eau digestive associée avec la quinine liquide, mais j'ai remarqué que ça a amélioré vraiment.
Quinine liquide, pourquoi cette indication? Qui vous a conseillé de donner un tout petit bébé ce produit?
J'ai une petite sœur qui est médecin aussi. Elle m'a conseillé de donner ça. Et quand j'ai donné, vraiment, il y a eu changement. Parce que même aujourd'hui, il a repris avec les selles pâteuses de couleur jaune.
Mmh. Une petite sœur qui est médecin, elle travaille où? Dans un hôpital, dans un centre de santé?
Oui, il travaille dans une structure sanitaire.
Dans une structure sanitaire. Je me tourne vers le spécialiste qui est à l'écoute, professeur Papa Mokhtar Faye. De la quinine liquide pour un bébé de 3 mois, c'est pour quelle indication?
Alors moi, je viens d'apprendre l'utilisation de ce produit.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Je ne connais... la quinine est connue pour son effet antiparasitaire sur le paludisme. Mais absolument pas dans cette indication-là. Alors, le transit du bébé, c'est quelque chose qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes aux parents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de tolérance vis-à-vis de ce transit, puisque la nature, le nombre des selles, la consistance, l'aspect, la couleur peut être très, très variable, notamment en fonction du mode d'alimentation. En général, les enfants qui sont allaités au sein ont des selles qui sont jaunes, d'or, semi-liquides, avec quelques grumeaux, avec une fréquence qui peut varier d'une selle toutes les 6-7 selles par jour à une selle tous les 6 jours. Donc c'est extrêmement variable. Et lorsque l'enfant reçoit un autre type d'alimentation, ça modifie l'aspect, la consistance des selles. Et je pense que c'est ce qui a dû se passer avec madame. Mais c'est absolument pas alarmant. À partir du moment où on n'est pas dans une situation de diarrhée qui nécessiterait une prise en charge, et même si c'est une diarrhée, la prise en charge consisterait en une réhydratation par voie orale, qui peut être faite d'ailleurs par le lait maternel de façon tout à fait efficace.
Marie, votre bébé, il ne perdait pas de poids?
Non.
Il dort.
Il ne perd même pas, il est bien.
Il est bien.
Il n'a pas perdu de poids.
Ça, c'est vraiment l'essentiel. Il dormait bien, il pleurait pas tout le temps, il n'était pas fiévreux.
D'ailleurs, il ne pleure presque pas.
Non.
S'il pleure, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être allaité.
Oui, juste quand il a faim, donc c'est un bébé qui a l'air en bonne santé. Professeur Mokhtar Faye, vous conseillez vraiment à Marie d'arrêter ce sirop de quinine, hein?
Oui, je lui conseille vivement d'arrêter ce médicament, puisque peut-être que c'est une coïncidence, mais ce médicament peut avoir quand même d'autres effets négatifs sur la santé de votre bébé. Et comme je l'ai dit, ce sont de petites perturbations du transit qui sont parfaitement tolérées par votre bébé et ça ne nécessite pas de prise en charge particulière.
Marie, vous êtes rassurée?
Oui, je suis rassurée.
C'est l'essentiel. On vous souhaite une excellente journée. Un petit détour par Abidjan en conclusion avec une question que nous a adressée Azélé, qui vit donc en Côte d'Ivoire. Question notamment sur le rhume. Elle s'inquiète quand elle voit le nez de son bébé couler. Elle lui nettoie le nez. Elle n'a pas consulté pour ça, mais elle s'inquiète. Elle pense que son bébé est malade. Il n'a pas de fièvre, il n'a pas de symptômes. Ça passe, mais ça revient. Qu'est-ce qui peut expliquer, professeur Papa Mokhtar Faye, ces petits rhumes, un écoulement nasal sans fièvre? Qu'est-ce que vous en pensez, très certainement, pour rassurer Azélé?
Oui, c'est une situation très fréquente chez les tout petits bébés, d'avoir un rhume qui peut entraîner une obstruction nasale, qui peut gêner le sommeil, qui peut gêner la respiration. Mais le rhume est un symptôme tout à fait banal chez le nourrisson. Le remède qui est préconisé, ce sont les lavages de nez ou l'utilisation de mouches bébés, mais surtout le lavage de nez. Par rapport aux causes possibles, c'est surtout voir l'environnement, parce que souvent, peut-être que dans l'environnement du bébé, il y a de la fumée, il y a de l'encens, ou bien il y a l'utilisation de produits avec des senteurs très fortes, notamment les parfums de corps, les parfums d'ambiance. Ça, c'est souvent un peu l'environnement, la poussière également peut favoriser la survenue de ce rhume. Mais de temps en temps, il peut s'agir d'infections virales qui peuvent être transmises au bébé par son entourage, ses parents, ses frères qui viennent de l'école, qui viennent de la crèche. Mais dans tous les cas, c'est un symptôme banal qui ne nécessite pas de prise en charge médicamenteuse particulière. Même si de temps en temps, il faut le dire, certains rhumes qui sont d'origine virale peuvent se compliquer d'infections respiratoires, de bronchiolites. Mais c'est une situation qu'on ne peut pas vraiment anticiper.
Il y a une autre petite question d'Azélé qui va venir en conclusion et compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour le bain du bébé, elle fait un massage avant le bain avec du beurre de karité. Vous, vous auriez pour conseil de le faire plutôt avant ou après ou pas du tout ?
Avant, oui, ça marche bien. Et c'est ce qui est également important, c'est que ce soit elle-même qui le fasse. Donc, je pense que si c'est la maman qui fait ce bain, il y a beaucoup de bénéfices, il y a cet aspect relationnel qui est très important, et il y a surtout le fait qu'elle ne va pas faire des gestes très très invasifs et il y a moins de risques de traumatisme. Mais avant le bain, oui, ça me paraît être très très bien pour le bien-être du bébé.
Le bien-être, l'attachement, toutes ces émotions qui sont partagées pendant et après le bain pour aussi accéder à un meilleur sommeil. On vous dit un grand, grand merci, hein, professeur Papa Mokhtar Faye, pour tous ces conseils aux auditrices, aux parents. Merci pour votre disponibilité. On l'espère à bientôt dans Priorité Santé.
À bientôt, Caroline.
Et nous allons nous laisser avec Marina Froès, ce titre Gabriella sur RFI.
Qui est elle, cette moça tão bonita qui commande a minha vida? C'est minha Gabriella. Tão bonita quanto manhã de domingo na Antara, quanto rio e a flor mais amarela. E quando ela ri, sinto cócegas na palavra. Quando ela sorri, minha alma sorri de graça. Sei que ela me falou que pra ela eu sou como a praia. Veja bem, coração, uma praia sem sol não é nada. O amor da gente é dente com dente, é rosa e preto. Mas
my
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Louise Kaledek, Talim Pou, Ophélie Lassène. À Dakar, à la technique et réalisation Malençon Co. Ici, avec nous, Victor Hull et Laurent Philippot. Lundi, dans Priorité Santé, on va parler du sommeil, comprendre son fonctionnement pour mieux lutter contre l'insomnie. Des conseils, des moyens d'en finir avec ces troubles du sommeil sans médicaments. On se dit donc à lundi. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.